Sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Les courses à Cagnes-sur-Mer avec tout d'abord la combinaison gagnante du Quintet Plus. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 5, le 7, l'As et le 3, 10, 5, 7, As et 3. C'était dans la deuxième course. Pour ce qui est de la première, le 7 était non partant. Premier le 4, 5, 20 et 1, 70. Deuxième le 2, 1, 20 et troisième le 10, 80. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à 3 jours du sommet de Bruxelles qui doit décider de l'ouverture de négociations entre l'Union européenne et Ankara, un sujet d'actualité, la Turquie et l'Europe. J'ai pour les mariages un talent merveilleux. Et si je me l'étais mise en tête, je crois que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise. Molière. D'histoire. Dans 3 jours, le 17 décembre, le sommet de Bruxelles devra prendre une des décisions les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. Doit-elle ou non accepter l'entrée d'un pays qui, avec 780 000 km² et une population de plus de 70 millions d'habitants, en serait aussitôt un des membres les plus influents ? La Turquie, qui par son histoire, sa géographie, sa culture, sa religion, ses traditions et le mode de vie de ses habitants, est très différent des 25 pays de l'Union européenne. Ce qui n'empêchait pas la Commission européenne, il y a 2 mois, de donner un avis favorable à l'ouverture de négociations avec la Turquie. France Inter, Bruno Duvic, le 6 octobre 2004.
France Inter. La Turquie va pouvoir entrouvrir la porte de l'Europe. Elle a reçu aujourd'hui l'avis favorable de la Commission à Bruxelles pour entamer des négociations d'adhésion. Ce feu vert devra être confirmé par les chefs d'État et de gouvernement le 17 décembre. Pour la Commission, la Turquie satisfait aux critères politiques, mais ce oui est assorti de conditions drastiques. Les négociations pourront même être rompues, Quentin Dickinson.
La condition centrale que pose la Commission pour que le cycle de négociations se poursuive sereinement, c'est que la Turquie ne s'éloigne pas de sa trajectoire réformatrice actuelle. Clairement, toute dérive intégriste ou toute reprise en main de la part des militaires, par exemple, se solderait par une suspension immédiate du processus.
Sylvie Goulard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po et au Collège de l'Europe à Bruges et vous avez été pendant 3 ans expert à la Commission européenne qui, on vient de l'entendre, il y a 2 mois à peine, demandait ou donnait son feu vert plutôt à l'ouverture de négociations avec la Turquie. Mais c'est dans 3 jours que les choses vont se décider à Bruxelles à l'occasion de la réunion au sommet des 25 membres de l'Union.
Oui, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement, donc Monsieur Chirac, Monsieur Blair, Monsieur Schröder et les autres, qui vont prendre cette décision sur la base du rapport de la Commission.
Alors, dans un livre dont le titre est emprunté à la formule de Molière, qu'on a entendu au début de l'émission, Le Grand Turc et la République de Venise, vous dites qu'il s'agit d'un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe. C'est pourtant pas son premier élargissement, Sylvie Goulard.
Non, ce n'est pas le premier élargissement, mais ce serait la première fois qu'on fait rentrer un pays, vous l'avez dit, aussi vaste et aussi important, aussi différent aussi de nous. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier justement les élargissements qui viennent d'être faits et que l'Europe est à un moment de son histoire où elle a peut-être besoin un petit peu de digérer les élargissements précédents.
Alors, vous rappelez aussi que, au fond, la question de la Turquie dans ou en dehors de l'Europe, elle se pose depuis très longtemps, très exactement depuis 41 ans, quand le président de la Commission à l'époque, et en 63, Walter Hallstein, disait « La Turquie fait partie de l'Europe » et il ajoutait qu'elle serait un jour un membre de plein exercice de la communauté. Et ça fait il y a 41 ans, c'était.
Oui, mais je crois qu'il faut rappeler 2 choses. La première, c'est qu'on était dans un contexte extrêmement différent. C'était le contexte de la guerre froide, où la Turquie était aux avant-postes de l'Alliance Atlantique contre l'Union soviétique. Et puis, c'était aussi la communauté économique européenne, c'est-à-dire une coopération qui avait un but politique à terme, mais qui se limitait à l'économie. Et ensuite, le président de la Commission n'a pas vocation à engager tous les États. Donc, M. Hallstein a exprimé son point de vue. Et pour lui, je fais des recherches dans ses mémoires pour écrire ce livre. Il n'envisageait absolument pas que la communauté économique européenne puisse être autre chose à terme qu'une entité très politique d'un mode fédéral, ce que nous n'avons pas tout à fait aujourd'hui, je crois.
Alors, donc, il y a eu cette proposition, cette suggestion, ces propos de Walter Hallstein. En fait, la Turquie a attendu 1987, je crois, pour faire officiellement acte de candidature à ce qui n'était déjà plus la communauté économique européenne.
En 87, c'est encore la communauté économique européenne, mais on avait déjà commencé à faire un certain nombre d'autres choses. Oui, la Turquie a attendu parce que la Turquie a eu aussi ses propres difficultés et qu'elle était bien loin de pouvoir prétendre à devenir un membre de la communauté. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1963, si on avait formulé les choses avec autant de prudence, c'est parce qu'on n'a pas donné aux Turcs ce qu'ils voulaient. Et eux s'appuient sur le fait qu'il y a eu une promesse vague pour dire qu'on leur a promis quelque chose. Donc je crois qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous vivons avec eux depuis une quarantaine d'années une relation extrêmement ambiguë qui finira à la fin par nous poser des problèmes si nous n'éclaircissons pas ce que nous voulons vraiment.
Et des relations plus étroites qu'on ne le croit, puisque la Turquie ne fait pas partie de l'Union Européenne, pas encore si ça se produit un jour, mais elle est déjà associée depuis longtemps. Par exemple, ce que l'on ignore, c'est qu'elle fait partie de l'Union douanière.
Oui, elle a l'union douanière avec l'Union européenne. Ça veut dire que les marchandises circulent librement entre la Turquie et l'Europe et que nous avons le même tarif douanier extérieur commun, ce qui est une coopération extrêmement poussée.
Alors, donc, en 87, elle avait déjà posé sa candidature. En 89, la Commission, je crois, avait refusé, ou le Conseil avait refusé cette candidature. Et en 1999, 10 ans après Helsinki, le Conseil européen reconnaissait, au contraire, à la Turquie la qualité de pays candidat, ce que déplorait Valéry Giscard d'Estaing le 8 décembre 1999.
Le cas de la Turquie est tout à fait clair. La Turquie n'a pas de vocation à faire partie de l'Union européenne. Tout le monde le sait. Et tous les dirigeants, s'ils voulaient bien parler sincèrement, ne pas tenir une espèce de langage conventionnel, diraient la même chose. Ils le savent. Et quand ils sont entre eux, qui n'ont pas de micro, pas de caméra,
c'est ce qu'ils disent. Pourquoi ils ne disent pas?
Ils ne le disent pas et ils trompent les Turcs, en fait. Parce qu'ils cherchent des systèmes dans lesquels on fait croire aux Turcs qu'ils entreront dans l'Union européenne tout en étant décidés à ce que le processus n'aboutisse jamais. Eh bien, je considère que c'est une attitude qui est négative, contre-productive, blessante pour les Turcs en réalité, et qui vaudrait mieux dire la vérité. L'Union européenne, ce sont des pays dont l'essentiel du territoire est situé en Europe, ce qui n'est pas le cas de la Turquie, et aucun homme politique européen responsable ne peut en fait tenir un autre langage.
Et c'était Valéry Giscard d'Estaing dénonçant au fond le double langage qui est tenu par les responsables européens. Vous le dites vous-même, Sylvie Goulard, en public, personne n'ose dire à la Turquie non, vous ne devez pas entrer dans l'Union européenne, mais en privé, tout le monde dit c'est impossible, c'est difficile en tout cas.
Oui, c'est un exemple.
Il y a beaucoup d'hypocrisie au fond dans ce que font les institutions européennes quand elles déclarent que la Turquie doit entrer dans l'Union.
Oui, c'est un exemple assez étonnant, je dois avouer, de schizophrénie de la part des gens qui nous gouvernent, avec un objectif qui en soi est tout à fait légitime, qui est de garder la Turquie aussi proche que possible de nous et de la tirer vers nos standards et vers nos valeurs, mais en lui promettant le moins possible. Sauf que au fil des années, à force de promettre un petit peu, l'ensemble commence à faire beaucoup, et nous nous retrouvons cette semaine avec un Conseil européen qui, nous dit-on, ne peut pas faire autrement que d'ouvrir les négociations d'adhésion.
Alors, on a entendu Valéry Giscard d'Estaing, il n'est pas le seul en France à s'opposer justement à l'entrée de la Turquie. Il y a aussi l'UDF de François Bayrou, il y a également l'UMP, il y a aussi le Front National, tout ça pour des raisons assez différentes. Il y a aussi, par exemple, les sympathisants du Parti Socialiste. Dans un sondage IFOP publié par le Figaro de ce matin, on s'aperçoit que 67% des Français, en fait, sont hostiles à cette entrée de la Turquie, Sylvie Goulard.
Oui, je crois que pas toujours nécessaire de faire une politique pour suivre ce que pense l'opinion. Je crois en revanche que ne pas en tenir compte du tout est dangereux. C'est dangereux à cause de l'ampleur de cette opposition. C'est dangereux également parce que c'est une opposition qui me paraît assez profonde et qui est fondée sur des interrogations tout à fait légitimes du peuple français. C'est-à-dire, que voulons-nous faire en Europe? Est-ce que le projet que nous avons porté pendant des années est révolu, comme certains le disent? C'est le cas de Michel Rocard, par exemple, qui jette par-dessus bord 50 années de coopération franco-allemande en disant que tout a changé en 1973. Ou est-ce qu'au contraire, on poursuit ce projet, mais alors avec quels moyens? Quel argent sommes-nous prêts à mettre? Quelles réformes institutionnelles sommes-nous prêts à accepter? Donc je crois qu'il y a toutes ces questions et que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un sujet pour la droite ou pour la gauche, c'est un sujet qui intéresse tous les citoyens.
Mmh. À gauche, on est plus ambigu hein, là-dessus. A priori, on est plutôt pour, mais enfin, c'est toujours un peu pareil. Hein, de langage, on dit, écoutez, nous sommes pour, mais on attend ce que les autres, évidemment, soient en désaccord. Il n'y a pas que les Français que ça intéresse. Hein. 67%, encore une fois, selon le sondage du Figaro de ce matin, sont hostiles à l'entrée de la Turquie. Il y a également la majeure partie des Allemands. En revanche, il y a des pays où l'opinion publique est plus partagée et même plutôt favorable. L'Espagne, 65% des Espagnols souhaitent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc, selon que l'on est dans tel ou tel pays, les opinions ne sont pas les mêmes.
Oui, mais il faut bien garder à l'esprit, bien voir si le débat a commencé dans les pays en question. Ce que j'observe pour ma part, et j'espère que mon petit livre y a un peu contribué, il y a quelques mois, on me disait en France qu'il n'y avait pas de débat et qu'il n'y avait pas d'opposition. Et puis on s'est rendu compte que petit à petit, ce débat prend corps et que le chiffre des gens qui s'opposent, plus ils sont informés, enfin, plus les citoyens sont informés, plus ce chiffre augmente. En Allemagne, qui est un pays que je connais bien, où j'étais encore la semaine dernière, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire
qu'une forte communauté turque, il faut le rappeler.
Oui, alors en Allemagne, le débat est un peu différent. Effectivement, il se polarise malheureusement un petit peu beaucoup sur l'islam, mais il y a aussi des voix, comme celle de Wolfgang Schäuble, de Heinrich Winkler, etc., qui ont pris position sur le projet européen. Pour ce qui est de l'Italie, par exemple, le débat n'a pas encore commencé en Italie. Donc, je crois qu'il faut éviter de comparer peut-être des pays qui n'ont pas atteint le même degré de maturation sur ce sujet.
Alors, pour ou contre l'entrée de la Turquie, il y a beaucoup d'arguments hein, pour ou contre, justement. Vous les passez tous en revue. Sylvie Goulard, commençons peut-être par le plus anecdotique, si je puis dire. Pourtant, s'il est important, la Turquie ne serait pas géographiquement européenne. Si, mais enfin, il n'y a que 3% de son territoire qui l'est.
Oui, je crois que c'est pour cela que M. Giscard d'Estaing a parlé de pays essentiellement européens. Bien sûr, il est très difficile de dire que les habitants d'Istanbul ne se sentent pas européens. Il n'empêche que la Turquie va jusqu'aux frontières de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de la Géorgie. Et lorsqu'on est là, on n'est manifestement plus en Europe.
Alors, autre argument, brandi notamment par les adversaires de l'entrée de la Turquie, vous l'évoquez bien sûr, avec des chiffres, l'argument démographique. Si elle entre dans l'Europe, la Turquie sera du jour au lendemain le deuxième État européen par sa population, et dans 50 ans, le premier avec près de 100 millions d'habitants.
Oui, je crois que c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. J'ai été très frappée cet été par les grandes discussions qu'il y a eu en France sur la perte d'influence relative de notre pays dans l'Europe à 25. Et je préférerais que nous parlions aujourd'hui de ce que va signifier la présence de la Turquie dans l'Union. Car il est tout à fait légitime pour les Turcs de vouloir avoir une représentation proportionnelle à leur population, aussi bien au Parlement européen, qu'un nombre de voix correspondant à leur taille au Conseil qui prend les décisions dans un certain nombre de domaines, d'avoir un commissaire, d'avoir un nombre de fonctionnaires communautaires importants, etc. Je crois que si nous les admettons dans l'Union, il faut le faire sérieusement et sur une base de non-discrimination. Cela ferait de ce pays un pays plus peuplé que la France, assurément, plus peuplé que l'Allemagne à terme, et avec en même temps des besoins de rattrapage et une identité qui sont pas tout à fait comme les nôtres. Donc moi, j'ai tendance à penser que cela poserait des problèmes en Europe.
Il y a aussi une crainte d'ordre démographique exprimée par les adversaires de l'entrée de la Turquie en Europe. Ce serait une immigration, plutôt une émigration de la Turquie vers les pays partenaires, favorisée bien sûr par le principe de la libre circulation des personnes, Sylvie Goulard.
Alors je crois que là, sur ce terrain-là, il faut être circonspect. Deux choses. La première, c'est que lors des élargissements précédents à l'Espagne et au Portugal, par exemple, on avait également cette crainte. Or, il apparaît qu'une des vertus de l'entrée dans l'Union européenne, eh bien, de faire monter le niveau de vie dans les pays candidats et donc de faire disparaître une des motivations pour l'immigration. Je pense que ce phénomène existerait également pour la Turquie. Donc il faut pas utiliser des images de hordes de population en haillons débarquant chez nous. Je crois que ça serait très grave. En revanche, j'observe néanmoins une hypocrisie assez grande dans les cercles de décision, puisque la Commission européenne elle-même a été jusqu'à proposer le 6 octobre dernier, dans sa recommandation, qu'on envisage une clause de sauvegarde permanente. Je cite, une clause de sauvegarde permanente qui empêcherait les Turcs de bénéficier de la liberté de circulation.
Une Europe à deux vitesses, quoi.
Et je trouve ça extrêmement offensant et très révélateur des limites de ce que nous sommes vraiment prêts à accepter vis-à-vis d'eux. Car la libre circulation des personnes est au cœur de la construction communautaire. Donc, ou on considère que la Turquie a sa place en Europe et donc les citoyens turcs doivent pouvoir voyager, ou alors elle n'a pas sa place. Et dans ces cas-là, il vaudrait mieux le lui dire autrement.
Alors, parmi les raisons du refus d'entrée de la Turquie en Europe aussi, qui ne sont moins géographiques ou démographiques que culturelles, il y a bien sûr le fait que la Turquie est majoritairement musulmane, même si depuis Mustafa Kemal, Atatürk, le père des Turcs, elle est un pays laïque depuis la première moitié du XXe siècle et qu'elle entend apparemment le rester. France Inter, Dominique André, Ankara, le 5 octobre 2004.
Tous les jours, des familles turques gravissent les marches de l'escalier monumental du mausolée d'Atatürk. Ici repose le fondateur de la Turquie moderne et laïque. À part les extrémistes musulmans, le peuple turc voue un véritable amour à Atatürk. C'est le cas d'Alpaslan.
Il est toujours vivant, ce cas, même dans les écoles, on apprend tout de suite la pensée d'Atatürk, les idées d'Atatürk, car ce sont des idées, vous savez, laïques, démocratiques.
Mais l'arrivée au pouvoir en 2002 de l'AKP, parti issu d'un mouvement islamiste, brouille les cartes. Et le fait que l'épouse du premier ministre turc porte le voile, interdit par Atatürk, irrite beaucoup de femmes, comme cette étudiante.
On est laïque, on a beaucoup de droits ici, mais quand on voit les femmes comme ça qui portent le voile, ça nous donne une mauvaise image.
La laïcité recule-t-elle en Turquie? C'est toute la question. Pour beaucoup ici, l'adhésion d'Ankara à l'Union européenne serait, de ce point de vue, une sécurité.
Sarma erkek niye seni şımarık değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması ya inadıma inadıma sırtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne esir oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip
France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, la Turquie et l'Europe, et ce chanteur turc, très populaire même en Europe, Tarkan, chantant Simarik, qui veut dire capricieux, où il est question d'un jeune garçon qui se plaint de la liberté dont disposent les femmes dans son pays, qui en sait, c'est une chanson au deuxième degré, hein, Sylvie Goula. Mais est-ce que c'est vrai qu'au fond, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que depuis l'élection d'un parti islamiste, même modéré, en Turquie, est-ce que la laïcité, qui est un vieux principe que respectent les Turcs depuis longtemps, est en cause. Ça aussi, c'est un argument qui fait que on pourrait s'inquiéter de l'entrée de la Turquie en Europe.
Oui, je crois qu'en tout cas, il ne faut pas, comme le font certains, s'arrêter seulement à l'étiquette. La Turquie est laïque, donc c'est bon, on prend, ça va renforcer la laïcité à la française. Je crois que c'est beaucoup plus complexe. Comme vous l'avez dit, il y a dans ce pays un attachement profond à la laïcité, qui a été un des fondements de la République turque. Il y a d'autre côté une opposition entre le parti AKP qui est actuellement au pouvoir, qui cherche à faire entrer la Turquie dans l'Europe, et les gardiens de ce qu'était le kémalisme, qui sont plutôt des conservateurs qui, eux, sont hostiles à l'entrée du pays dans l'Europe. Et il y a eu des déclarations, aussi bien de M. Erdogan, le Premier ministre, que du ministre des Affaires étrangères, qui laissent entendre qu'ils entrevoient, grâce à l'Europe, un assouplissement de la laïcité, par exemple faire disparaître la loi sur le voile. Et ça, en tant que femme française, moi, ça me pose un problème, d'autant que M. Erdogan n'a pas hésité à dire à Paris, dans une indifférence générale de nos autorités, qu'il avait envoyé ses filles étudier aux États-Unis pour qu'elles aient, je cite, la liberté d'être voilées. Mmh. Ça m'inquiète beaucoup.
Alors, il y a la laïcité. Parmi les critères, d'ailleurs, vous les évoquez, Sylvie Goulard, dans votre livre, ils ont tous été énumérés à Copenhague, il y a quelques années, ce qu'on appelle les critères d'entrée, donc des candidats à l'Union européenne. Il y a bien sûr, donc, la laïcité, mais il y a surtout le respect des droits. La laïcité n'est pas obligatoire.
Non, absolument pas, j'allais vous le dire, oui, malheureusement.
C'est pas du tout, la religion n'est pas un critère d'entrée, vous le dites.
Non, que la religion ne soit pas un critère d'entrée est une bonne chose. L'Union européenne n'est pas confessionnelle, donc on n'a pas du tout à exclure les Turcs, parce qu'ils sont majoritairement musulmans. En revanche, il n'y a pas de critères tendant à la préservation de la laïcité, concept extrêmement français et qui n'est pas partagé par la plupart de nos partenaires
français
en Europe.
Turc, d'ailleurs.
Avec des modalités différentes. En Turquie, il n'y a pas de séparation entre l'islam sunnite et l'État.
Alors à Copenhague, en revanche, on attache de l'importance à la défense, à la primauté du droit, à la défense des droits de l'homme, à la liberté des femmes. Est-ce que dans ce domaine aussi, la Turquie a fait des progrès? Parce qu'on lui a beaucoup reproché justement des violations aux droits de l'homme, la pratique de la torture par exemple.
Les rapports sur le terrain font effectivement apparaître des progrès extrêmement importants, en tout cas sur le plan législatif, c'est-à-dire que beaucoup de textes ont été modifiés de manière à engager le pays dans cette direction. Il reste à voir comment ils seront appliqués. Et comme vous le savez bien, il est beaucoup plus facile de changer le code pénal que d'éviter que des crimes d'honneur contre des jeunes femmes soient perpétrés parce qu'il y a des traditions, il y a des interprétations archaïques qui demeurent dans les têtes. Donc d'abord, il faudra un certain temps pour voir, et c'est pas seulement moi qui le dis, Amnesty International a écrit en juin dernier un rapport qui est assez accablant, en tout cas beaucoup moins optimiste que celui de la Commission européenne.
Alors, il y a aussi une chose qui pose problème, c'est parmi ces violations des droits de l'homme, il y a quelque chose qui est bien pire que ça encore, il y a un génocide en 1915 contre les Arméniens qui a fait entre 1 et 2 millions de victimes, et la Turquie, on se demande pourquoi d'ailleurs, tant d'années après, la Turquie refuse de reconnaître sa responsabilité dans le génocide arménien.
Oui, c'est très important que vous le souligniez parce qu'il y a des considérations morales, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important dans la perspective de l'entrée à l'Union européenne et de très préoccupant. Parce que nous avons fondé la démarche européenne, enfin l'intégration communautaire, sur la réconciliation franco-allemande, l'acceptation par l'Allemagne de la responsabilité de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et un retour sur notre propre passé. C'est seulement à cette condition-là qu'on peut, je dirais, mettre un frein au nationalisme. Ce qui est frappant chez les Turcs, c'est qu'effectivement, cette histoire est ancienne, elle ne concerne plus des personnes vivantes, et malgré tout, ils refusent de l'admettre. Ça veut dire qu'ils ont un nationalisme tellement exacerbé qu'ils ne peuvent pas imaginer leur propre faute. Et là, j'y vois non seulement quelque chose de moralement choquant, mais aussi un obstacle à la pratique des procédures supranationales comme on les a dans l'Union européenne. En quelque sorte, si vous voulez, pour accepter d'être mis en minorité par d'autres dans des discussions, pour accepter le jeu normal de la démocratie, il faut aussi accepter qu'on est soi-même peut-être un petit peu faillible.
Alors parmi les arguments alors là que vous évoquez et auxquels vous accordez encore plus d'importance au fait que la Turquie ne doit pas selon vous entrer dans l'Europe, le fait que elle est un péril pour les institutions européennes elles-mêmes, pour des raisons à la fois économiques, budgétaires et politiques. Par exemple, le coût d'entrée qui ferait exploser le budget communautaire, dites-vous, Sylvie Goulard. Mais c'est pas le seul de vos arguments.
Non, alors, je voudrais d'abord dire un mot sur les aspects institutionnels, si vous permettez. Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas forcément qu'on envisage l'entrée de la Turquie dans l'Union, c'est qu'on nous dise qu'on la veut sans indiquer comment ça va marcher. Or, on l'a dit tout à l'heure, c'est un pays qui est important par sa population. Il se trouve que nous avons quand même derrière nous 10 années à peu près de négociations sur la réforme des institutions, négociations qui ont abouti au traité constitutionnel qui va être soumis aux Français bientôt. Eh bien, dans ces discussions-là, la question la plus délicate, la plus difficile, c'était le rapport entre les grands et les petits. Or, nous avons une multitude de petits pays, voire de tout petits, comme Malte ou Chypre ou la Slovénie, et nous allons avoir un géant encore plus grand que l'Allemagne. Et personne ne donne de solutions pour cela. Sur l'aspect budgétaire, vous avez tout à fait raison. On s'inspire souvent de ce qu'on a fait pour l'Espagne, le Portugal, la Grèce, en disant « Regardez, nous sommes arrivés à sortir ces pays de la dictature », et c'est exact. Mais à l'époque, nous avons investi des sommes considérables. Aujourd'hui, les pays qui soutiennent le plus la candidature de la Turquie, Paris, Berlin, Londres, sont ceux qui plaident pour une réduction du budget communautaire. Donc, tous nos gouvernants sont très forts pour faire des effets d'annonce, mais quand il s'agira de payer la facture, je ne sais pas qui sera là, et en tout cas, par exemple, je n'ai jamais rencontré un député social-démocrate allemand qui soit prêt à en assumer le coût.
Parmi les pays qui soutiennent l'entrée de la Turquie, ça peut paraître étrange, il y en a un qui n'appartient pas du tout à l'Union européenne, les États-Unis. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, les Américains ne comprennent pas forcément, je dirais que c'est la version optimiste, ce qu'est le projet européen. La dimension supranationale, son caractère extraordinaire, pour eux, c'est un peu du chinois. La Turquie dans l'OTAN, c'est une organisation internationale. On ne voit pas pourquoi elle serait pas dans l'Union européenne, organisation internationale, fermez le banc. Il y en a d'autres qui connaissent très bien les ambitions des Européens et qui ont envie de les contrecarrer. Et je crois que si vous regardez le magazine The Economist de la semaine dernière, qui disait que grâce à la Turquie, on dira adieu à une union sans cesse plus étroite, ce qui était l'objectif des Européens dans l'Union Européenne, eh bien on voit très bien leur intérêt. Ils vont avoir une zone de libre-échange où leurs entreprises pourront travailler sans problème, sans entrave, et ils n'auront pas de partenaires politiquement aussi forts qu'eux sur la scène mondiale.
Je dis, la Turquie et l'Amérique, c'est une vieille histoire. Hein. La Turquie n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est depuis le début pratiquement, pas tout à fait le début, mais depuis plus de 50 ans, elle est membre de l'OTAN hein, aussi, elle est l'allié privilégié des États-Unis ou un des alliés privilégiés dans la région. Pourquoi dites-vous, que Sylvie Goulard, que la France, dans cette affaire, doit jouer un rôle essentiel parmi les 25 pays membres de l'Union européenne ?
Essentiellement parce que mon argumentation est de me fonder sur le projet européen. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est l'Europe, dont on parle peu. Et les Français, en tout cas, certains, ont été depuis les origines... ce sont eux qui ont eu l'initiative de l'Europe. Robert Schuman, Jean Monnet, et puis d'autres ont porté le projet, comme Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing. Il y a dans notre pays un attachement à la construction d'une Europe forte, puissante, qui n'existe pas toujours chez nos partenaires. Et il y a également un certain savoir-faire, je dirais, dans la manière de s'opposer aux Américains, qu'il ne faut pas cultiver comme une fin en soi, mais qui peut être utile. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a besoin de courage, et que ce courage, eh bien, je ne sais même pas si en France, on va en avoir vraiment la preuve cette semaine.
En tout cas, le président de la République est pour l'entrée, mais en même temps, il dit que ça se fera dans très longtemps, par référendum, ce qui semble indiquer que d'ailleurs ça ne se fera sans doute pas, si jamais, parce que 71% des Turcs souhaitent cette entrée de leur pays dans l'Europe, si jamais c'est négatif, si la Turquie n'entre pas dans l'Europe, est-ce que la frustration ne pourrait pas les conduire exactement à l'endroit inverse d'où on voulait les tirer, c'est-à-dire vers un islamisme plus radical? Au fond, ce serait une espèce de refus pour des raisons religieuses ou racistes, même si ce ne sont pas les bonnes raisons, vous le dites, Sylvie Goulard.
Oui, ce ne sont pas les bonnes raisons, mais à continuer ainsi à tenir un double langage, c'est malheureusement un scénario qu'on ne peut pas exclure. Je ne veux pas être défaitiste, on peut très bien avoir une spirale positive qui s'amorce. Nos gouvernants peuvent d'un coup réaliser qu'ils ont besoin de faire de la pédagogie, convaincre les Français et d'autres. Bon. Mais il n'empêche que le scénario dans lequel on aurait la Turquie qui fait des efforts pendant 12 ou 15 ans et qui, in fine, reçoit dans la figure un vote négatif d'un peuple européen et notamment du peuple français, on ne peut pas l'exclure. Et c'est d'autant plus dangereux que parmi les partisans de l'entrée de la Turquie, beaucoup sont sur le mode extrêmement généreux, pas de choc de civilisation, etc.
Merci Sylvie Goulard. Pour en savoir plus, je recommande vraiment votre livre qui vient d'être publié chez Fayard, Le Grand Turc et la République de Venise, avec un avant-propos de Robert Baninter. Vous pouvez retrouver ce titre et d'autres titres de livres que je n'ai pas le temps de citer dans consultant le service des relations auditeurs au 32-30, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Olivier Riotor, Claire Destacan, Claire Tessier.